fils assassine et la justice acquitte. Ici c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes des pecs.
En tout cas, toutes les personnes qui sont là, à toutes les personnes qui sont venues, on les remercie encore mille fois. Et le combat continue, la cour Adama.
La police assassine et la justice acquitte. La police assassine et la justice acquitte.
J'aimerais revenir un peu sur le traitement médiatique des premiers jours de l'affaire.
Oui.
Donc, y a, pour resituer, on est cité Saint-Maurice. C'est une petite cité ouvrière au bord de la voie de chemin de fer à Colliers. Donc, c'est l'homme, Mathis, Aurélien, Achraf discutent entre eux. Après c'est là où les versions diffèrent hein, entre la version Voix du Nord, police, préfecture, puis la version des gens, enfin des survivants et de leur famille et de la famille des victimes. Intervention de police, ils fuient, ils passent sur les voies, un TER passe, ils sont écrasés. La Voix du Nord publie un article assez rapidement reprenant uniquement les informations que lui ont donné la police, à savoir c'est un accident. Il n'y a aucune raison qui est donnée à la présence des jeunes sur la voie. Le lendemain, à Colliers, des voitures brûlent. Le transport arrête les métros qui desservent le quartier. Et la Voix du Nord en parle. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Bon, il y a des voitures qui ont brûlé à cause d'une rumeur. Alors la rumeur, par contre, ça, il n'est pas question de dire la rumeur. On parle de tragique. Alors, et il continue comme ça les trois premiers jours avec des articles où on n'évoque absolument pas, on dit qu'il y a une rumeur, mais on ne dit même pas quelle rumeur. On ne dit même pas que c'est lié à la mort de Selom et Mathis. Et c'est seulement parce que Aurélien, trois jours après, alors qu'il est sorti de l'hôpital avec le bassin déplacé, enfin blessé, il est encore en fauteuil roulant et il parle à France 3 et il donne sa version en disant qu'ils ont fui parce qu'ils ont vu six policiers arriver sur eux avec des matraques. Et là, bah là ça pose un problème. Y a un rassemblement qui a lieu dont Claude parlait sur la place des Jeters. Et donc là, le problème commence à se poser. Et là, il commence à être à peu près avéré que la Voix du Nord raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un article. Au bout de 4 jours, c'est le tragique accident, on récapitule, on fait une chronologie des 4 premiers jours.
Un retour sur les faits.
Un retour sur les faits.
Ils n'ont jamais été énoncés.
Sauf que les faits, ils ne les avaient jamais énoncés avant. Et là, ils sont bien obligés, vu que sur France 3, ça avait parlé, que les gens commençaient à se rassembler, ils étaient bien obligés de dire qu'il s'était passé quelque chose en rapport avec la police, même avec du conditionnel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont effacé tous leurs premiers articles. Pour pas qu'on voit le traitement médiatique qu'ils ont fait des premiers jours. Et c'est seulement parce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui les ont interpellés en disant « Eh, pourquoi vous effacez les premiers articles ?» qu'ils ont été obligés de les remettre après. Donc il y a vraiment... j'insiste un peu là-dessus. Le traitement médiatique joue vraiment un rôle très important dans l'affaire. D'autant plus que quand on regardait... Alors évidemment, si on met des articles comme ça en disant « Ouais, les jeunes, je sais pas quoi, FIF, c'est tout pourri... » C'est quoi les commentaires en dessous des articles ? C'est des centaines de commentaires de gens qui, ça se trouve, ne sont même pas dans le coin. Je veux dire, c'est pas des voisins. Ça se trouve, c'est des mecs qui habitaient des vieux cons qui habitent à Nice, hein, qui écrivent des saloperies sous les commentaires. Et c'est le même truc. C'est des petits jeunes, c'est des dealers, c'est des racailles. Ils l'ont bien cherché. S'ils ont couru, c'est qu'ils avaient des trucs à se reprocher. Et c'est que de ça, des torrents de commentaires comme ça, de gens qui sont absolument pas concernés par l'affaire, qui n'en savent rien du tout, qui n'ont comme information que ce qu'ils ont lu dans La Voix du Nord et leur amour de la police. Et c'est que de ça, c'est que de ça. C'est des torrents de merde de gens qui calomnient les victimes.
C'est clair.
Et c'était vraiment, moi, c'est un truc qui m'a profondément choqué. Quoi. Pas surpris, mais choqué.
De toute façon, c'est Selom et Mathis, ils ont été stigmatisés directement par la Voix du Nord en étant des délinquants, des trafiquants de drogue, c'était des dealers d'héroïne, de cocaïne. Moi, je connais Selom. J'ai squatté avec lui. Jamais de sa vie, il aurait touché à ça. C'était un mec en or, franchement, avoir... Tout ce que la Voix du Nord a mis sur lui, c'est archi faux. Mais et ça, moi, franchement, la Voix du Nord, il me dégoûte. Et je me battrai jusqu'au bout pour leur faire cracher la vérité. Qu'ils disent enfin la vérité dans leur journal et qu'ils arrêtent de leurs commentaires mensongers sur Selom et même sur Mathis. Donc, franchement, là, j'ai une haine envers la Voix du Nord, mais puissant.
Le problème de la Voix du Nord, c'est que, enfin, non seulement le mal a été fait en parlant avant tout d'une rumeur et non pas d'une version différente, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Utiliser le mot rumeur, ça sous-entend que non seulement ils expliquent pas que la rumeur ce serait une présence policière, mais le fait de parler de rumeur, ça la rend fausse d'emblée. Donc ça, c'est vachement grave. Ce qui est vachement grave aussi, c'est qu'ils relaient, ils disent, oh ben, une des victimes survivantes a parlé d'un raccourci. Ils auraient pris les voies pour prendre un raccourci. Ils n'ont même pas eu la présence d'esprit, ce qu'a fait France 3, et je pense que c'est là aussi qu'ils ont commencé à s'emberlificoter, à se tirer des balles dans le pied, à raconter n'importe quoi, c'est qu'il n'y avait pas de raccourci possible et envisageable, parce que derrière les voies, il y avait l'autoroute. Et a priori, ce n'est pas un endroit sur lequel on se rend pour se balader. Donc il y a eu ces versions-là. Donc parler de rumeurs, c'était dangereux. Parler de raccourci, c'était n'importe quoi. Et en plus, en racontant que les victimes, elles n'étaient pas scolarisées. Enfin, en fait, on jette le discrédit sur les victimes. Et avant même qu'il y ait une voix portée par la population, par les amis, par une mobilisation qui met en cause la police, avant même ce moment-là, la police, elle est déculpabilisée.
La police, est, pour moi, est à 80% responsable de la mort de Matisse et de Selom. Donc ils étaient là sur les lieux. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas intervenir sur les rails.
C'est à cause d'eux qu'ils ont couru aussi. Ouais. Si la police elle se montrait pas aussi violente envers les jeunes, on courrait pas.
Connaissant Selom, il aurait jamais couru comme ça devant les policiers. Si les policiers seraient venus, ils lui auraient parlé tranquillement, ils auraient fait un contrôle normal. Là, ils viennent avec des matraques à la main courir.
Ah, puis ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'a priori, ils sont jamais polis, respectueux. Ah oui, enfin, et que du coup, à partir du moment
où
ils vous interpellent et tout, du coup, le réflexe, enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin,
on va pas rester sur place. Moi, je vois des policiers venir avec une matraque vers moi et je reste pas assis en attendant qu'ils arrivent. Non,
tu vas pas te laisser te faire frapper, du coup.
Donc voilà. Mais direct, ça s'est passé ça, stigmatiser délinquants.
Ouais, juste parce que tu habites à FIF, t'es un délinquant, de toute façon.
En fait, moi, c'est par rapport à la présence policière, là, c'est que le 18 décembre, quand on est allé une première fois pour faire un dépôt de plainte, donc on a rencontré le commandant Haroun qui nous disait que ce bon monsieur, qu'après toute vérification, hein, il a bien dit, insister sur ce mot-là, après toute vérification, et c'est la police qui mène les investigations, qui fait toutes les vérifications possibles, qu'il n'y avait pas de présence policière au moment du drame.
Ça, c'est la deuxième version. Au départ, c'est
non, raccourci. Non. Après, il n'y a pas de présence justement, policière. Oui, raccourci. Et pas de présence policière du tout. Ce qui est même le procureur dans son communiqué disait, et c'est le 19, le lendemain, quand on est retourné pour maintenant faire notre dépôt de plainte, parce que bon, il nous a quand même dissuadé le 18 de ne pas faire ce dépôt de plainte parce que il y avait.
Vous pouvez rappeler un peu les circonstances des premiers dépôts de plainte?
Oui, c'est parce que pour lui, il n'y avait pas lieu de faire un dépôt de plainte parce que c'est lui qui mène les enquêtes, qui dirige tout, et que ces hommes sont occupés de faire des auditions, donc que lui voyait très bien où je voulais en venir parce que en faisant un dépôt de plainte, donc mes avocats pouvaient avoir accès au dossier, donc. Comme quoi, pour l'instant, il n'y a rien dans le dossier, donc ça ne servait à rien de faire un dépôt de plainte. Donc, bon, j'ai dit.
Donc, c'est eux qui décident si on dépose plainte ou si on ne dépose pas plainte. Et si ça vaut le coup de déposer plainte.
Justement,
si ça vaut
le coup. Donc, voilà. Bon, moi, ce que je lui ai dit, donc, je dis de toutes les façons, je vais revoir mes avocats. Si eux, ils disent que je dois déposer plainte, je reviendrai le lendemain déposer plainte. Donc, c'est ce qui s'est passé.
Juste vite fait. Et à savoir que la maman Matisse, on ne l'a pas autorisé à porter plainte, mais pas du tout.
Oui.
Ils ont, ça sert à rien, portez pas plainte. Non, c'est. Ah, elle a pas pu. Et on sait qu'elle a pas pu, elle a pas pu porter plainte. Hein.
Alors, moi, je voudrais juste sur un détail juridique. Dans des cas comme ça, il y a deux manières de faire. Soit on se déplace au tribunal en personne et on porte plainte en son nom, soit on prend un avocat et l'avocat fait une procédure directement au parquet. Et en vrai, vaut mieux cette deuxième solution, parce que là, la plainte ne peut pas être refusée, ça passe par le parquet directement. Enfin, on ne va pas se faire cueillir devant, à l'accueil d'un commissariat où les gars vont refouler ceux qui veulent porter plainte. Donc, c'est, le mieux à faire, c'est quand même de prendre, dans ces cas-là, c'est de prendre un avocat, et c'est l'avocat qui s'occupe de la procédure de plainte sans que ça passe par la police.
Oui.
Avant d'aller pour la plainte, avant qu'on puisse porter plainte, on a été accueillis par la De Sailly collègue. Oui. Explique, parce que ça s'est vraiment passé, mais d'une façon éprouvante. En fait, quand on est arrivé dans le bureau, déjà d'emblée, elle nous dit « Moi, je suis pas là pour prendre votre plainte ». Déjà, ça, parce que nous, quand on nous a appelés, on venait pour porter plainte. On nous accueille, on pense venir porter plainte. Mais non, que nini. Elle était là parce qu'elle était à charge des charges et elle allait nous auditionner. Ça, on n'a pas compris, parce que des gens se font auditionner à l'endroit où nos enfants, quand même, c'est eux qui sont un peu... Voilà. Donc, on arrive dans ce fameux bureau. Donc déjà, c'est un peu déstabilisant parce qu'elle nous claque d'emblée qu'elle n'est pas là pour prendre la plainte, mais pour nous auditionner. Donc moi, ça me déstabilise complètement. J'étais crevée, j'en pouvais plus de toutes ces conneries, en fait. C'était un truc... voilà. Donc, de fil en aiguille, elle nous pose des questions, elle nous dit, bah, voyez, elle a vraiment, ce qu'elle a fait, en fait, elle a essayé de diviser pour mieux régner, en fait. Elle a essayé de nous mettre de son côté par rapport à Ashraf et Aurélien, parce que j'ai trouvé ça ignoble, en fait. Elle a dépeint un tableau des deux gamins, mais le plus pourri, le plus noir possible. Et en nous disant que nous, nos enfants, voilà, ils étaient bien, il n'y avait pas de soucis, nanana. En fait, voilà. L'ange et le démon. Et c'est les démons, ils sont vivants, mais pas les anges. En fait, c'est une traduction que je fais. Hein. Mais voilà, nos enfants, c'était les anges, et manque de peau, ils sont décédés. C'est comme les deux. C'est vrai, ce qu'elle nous a fait, c'est un truc. C'était ignoble, ce qu'elle a fait. Moi, j'ai trouvé ça ignoble. Elle a vraiment... Et quand, à un moment, souviens-toi, quand elle t'a dit, ah, je connais pas votre enfant, quand tu lui as montré une photo, souviens-toi de sa réaction. On a montré une photo. C'est pas anodin, on lui a montré une photo, c'est l'homme avec sa tenue de l'armée. Ça peut déstabiliser. Corps de métier, quand même, elle a plus ou moins le même costume, entre guillemets. On lui a montré la photo, elle a détourné son regard avec une vitesse, mais non, je vais pas le voir. Ça prouve que ça l'a interpellée. Je pense qu'au fond d'elle-même, elle a pris conscience qu'elle est occupée de servir des gamins, de foutre en l'air des gamins, juste pour pouvoir sauver sa peau et celle de ses hommes, quoi. Et ça, c'est ignoble.